Paul Arnaud, du ministère de la, enfin, du tribunal de Paris. Je me pose une question qui est un référent, un rapport à mon administration. Vous avez, monsieur germaniste, vous avez parlé de l'open data, une expérience qui se déroule au Mexique pour recourir aux services des réseaux sociaux afin de capter des informations sur les agissements qui intéressent la répression de la justice et des forces de l'ordre mexicaines. Eh bien, je voulais savoir comment est-ce que ça s'accompagne d'un comité d'éthique, de filtrage. Comment sont bon, parce qu'on peut dénoncer tout ce qu'on veut, mais comment sont protégées les libertés au Mexique, si vous pouvez me répondre, si vous avez un ciblage exact, plus approfondi sur ces expériences au Mexique.
Merci. Qui peut répondre? Essayez, faut vous lancer. Vous voulez répondre?
Je crois que c'était oui, concernant l'exemple que j'ai donné.
Oui, oui, oui.
Peut-être juste brièvement, merci pour la question, bien sûr. Et donc, moi, je ne suis pas spécialiste dans la matière de répression de la délinquance, mais c'est ce que nous avons vu, c'est simplement qu'il y a une certaine ouverture dans cette administration mexicaine, et il y avait des représentants d'un État qui est juste à côté, c'est le Honduras, où l'administration publique, elle rencontre un problème qui est que pas tout crime averti au public, aux autorités publiques, à cause d'un manque de confiance, par exemple. La corruption y joue un rôle aussi. Donc, dans tout cela, il y a peut-être un an et demi, a été établi un contact avec un entrepreneur web, type web, pour voir quelles sont les possibilités d'avoir un complément d'informations. Et donc, dans les réseaux sociaux, les informations qui circulent, forcément, il y a pas de filtrage, donc c'est vraiment du genre très très micro. J'ai vu une altercation là, je tweete cela, j'ai vu une altercation à cet endroit. Comment marchent les réseaux sociaux? C'est que si c'est vraiment une grande altercation, il y aura peut-être aussi d'autres personnes qui vont le tweeter. Après, ce qui intéresse pas, ce sont pas les cas individuels. Les cas individuels sont complètement, cachés. C'est ce qui intéresse, d'ailleurs, l'administration publique, c'est d'avoir un supplément d'informations, de renseignements. Quels sont les, hotspots de délinquance, le temps, les jours de la semaine, les endroits spécifiques, ou peut-être jusqu'à cela, les informations que dispose l'administration publique ne montre pas vraiment que ce qui se passe. Et donc, cet exemple, on l'avait. Donc, c'est en concernant les informations micro, ils ne sont pas partagés. Il s'agit vraiment d'avoir une vue de l'ordre général. Et on voit que cet exemple, pas spécifiquement, mais l'exemple de la délinquance et de la sûreté, sécurité nationale, c'est aussi quelque chose dans le open data qui intéresse de plus en plus aussi les États-Unis, le Royaume-Uni. Donc, il y a des portails open data spécifiques aux sécurités nationales qui vont être établies et qui étudient aussi cette complémentarité des données.
Merci pour cette réponse. Madame André Stretel, oui, vous pouvez poser vous-même votre question. Micro, est-ce qu'il y a un micro là tout près? On entend. Il n'y a pas quelqu'un pour porter le micro?
Oui, bonjour, je suis de Capgemini, j'ai une formation d'informaticienne, donc, et je suis consultante en grande base de données. Donc ma première question, ça concerne l'e-administration et d'une manière générale encore l'inégalité territoriale. J'ai constaté lors d'une enquête publique que certaines préfectures traînent à publier l'intégralité des dossiers d'enquête publique, alors que d'autres le font. Alors ma question, je pense que ça va être traité peut-être plus tard dans la journée ou demain, mais ma question est simple, est-ce qu'il y a une date, est-ce qu'il y a un objectif daté pour qu'il y ait une réelle égalité territoriale sur la publication de données de cette nature ? Ça s'adresse peut-être à Monsieur William Gilles.
Alors, je vais essayer de vous répondre. C'est pour ça que j'ai parlé de tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il fallait dépasser le contexte actuel où on a un mouvement bottom-up, c'est-à-dire que ça vient de l'État vers les collectivités locales. Et effectivement, aujourd'hui, au niveau des problèmes territoriaux, c'est aussi parce qu'on a certains services de l'État qui peuvent bloquer. Et c'est pour ça que j'avais préconisé d'aller vers une véritable décentralisation numérique. En allant vers une décentralisation numérique, on retire un certain nombre de problèmes que vous soulevez. Alors, pour répondre à votre objectif, est-ce qu'il y a un objectif? Déjà, dans le plan France numérique 2012, c'était déjà cet objectif d'essayer de réduire l'égalité des territoires. On voit que ça n'a pas été respecté. Donc, ça a été repoussé au plan France numérique 2020. Et on nous dit que pour d'ici 2020, normalement, les problèmes d'égalité des territoires devraient être, en tous les cas... diminuer assez significativement avec des investissements qui sont assez massifs parce qu'il y a aussi des problèmes d'infrastructure. Alors vous avez parlé de problèmes, pas des infrastructures, mais des problèmes de mise en place, d'implémentation de l'administration avec des blocages qu'il peut y avoir au niveau des services. Donc par rapport au blocage qui peut y avoir, bon bien sûr il y a des problèmes au niveau des territoires, parce qu'il y a des ressources qui sont pas les mêmes dans tous les territoires, mais aussi on a parfois des problèmes dans les mentalités. Et les problèmes dans les mentalités, les blocages que vous pouvez avoir, c'est pas un problème de territoire. Donc je pense qu'il faut dissocier les blocages qui peuvent résulter de l'inégalité des territoires qui existent réellement, mais aussi parfois des problèmes de mentalité. Et une difficulté de mise en œuvre d'un projet peut aussi être liée au fait que certains services ne sont pas suffisamment actifs en matière de déploiement. Et donc le fait d'aller vers une décentralisation numérique, d'aller non pas au niveau des départements, mais avec des plateformes régionales, permettrait, à mon avis, peut-être de régler un certain nombre de difficultés, non seulement parce que une plateforme régionale, ça permet aussi d'avoir un peu plus de solidarité entre les territoires, avec des territoires un peu plus riches, des territoires un peu moins riches. Pourquoi pas envisager que ça soit pris en compte dans le cadre des dotations qui sont données aux collectivités locales avec une incitation pour les collectivités qui sont les moins riches. Ça reste un objectif et il me semble que dans le processus de décentralisation qu'on souhaite mettre en œuvre et qui on appelle un troisième acte de décentralisation, ça a été demandé. Il me semble que ce troisième acte de décentralisation permettrait, grâce à une décentralisation numérique, de réduire cette inégalité des territoires, mais ça reste encore un objectif à atteindre peut-être d'ici 2020.
J'ai une autre question, donc ça concerne l'open data. Enfin, les open data, alors ça va peut-être aussi être traité plus tard, mais Monsieur Micolet n'a pas du tout évoqué l'aspect sécurité, sécurité confidentialité, parce que tout le monde se rue sur l'open data, c'est bien. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours où les données sont hébergées. On ne sait pas, aujourd'hui, on sait très bien que les problèmes de l'open data sont essentiellement, d'une part, la sécurité, d'autre part, la disponibilité, et enfin, le management de ces open data, qui n'est pas toujours très, très transparent, qui peut être opaque et qui peut laisser la porte ouverte à un certain nombre de fraudes, de piratages et autres malversations. Donc, s'agissant de données publiques qui peuvent même héberger des données personnelles et autres, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, l'open data, est-ce qu'il y a une réflexion spécifique à l'administration, aux administrations, pour adresser ce problème-là ?
Peut-être très brièvement, certes il y a des réflexions. Moi personnellement je ne suis pas très dans ce débat, donc je vais vraiment répondre très très brièvement. La sécurité, bien sûr, la confidentialité des données est très très importante et je crois des organismes comme France, la CNIL en sont là. Après il y a ce n'est pas un sujet du open data, c'est un sujet des données en général, parce que en France comme dans d'autres pays, toute base de données pose des soucis, qu'elle est ouverte ou qu'elle est fermée, dans la matière de justice, gendarmerie, en France on le voit dans le discours, dans d'autres pays on le voit pareil. Donc il s'agit pas d'après ce que je vois de configurer différemment le open data de quelconque autre donnée. Ça serait la première chose. Et la deuxième chose, c'est de voir que dans l'open data, il y a une pléthore d'informations qui peuvent être libéralisées, qui n'est pas à titre individuel. Et par exemple, cet exemple que j'ai mentionné avec la justice ou la répression des criminalité, il s'agit vraiment plutôt de voir dans cet océan d'informations, pas du tout les détails individuels, mais ce qui concerne les détails individuels, ce qui est intéressant, c'est leur contenu méta. Donc à quel moment a été envoyé un certain message, de quel endroit, de quel type de crime s'agissait-il, et après d'agglomérer toute une million des similaires SMS qui tous indiquent que place de la Pigalle samedi soir à 20h, ça peut être un peu plus dangereux qu'ailleurs à Paris. Ça c'est évident, mais dans d'autres parties c'est peut-être moins évident, et c'est ça ce caractère d'information plutôt qui intéresse. Mais après, je ne suis pas du tout expert pour approfondir.
Je voulais préciser que c'est l'open data avec le cloud. C'est pas l'open data en tant que tel, c'est l'open data sur du cloud.
Donc, ce qui peut-être il faudra. Peut-être des précisions, je peux peut-être donner aussi en direct, ou je peux référencer vers des collègues qui sont plutôt dans la discussion de sécurité et protection de la vie privée, qui sont plus dans ce débat que moi personnellement.
Oui, il y a une table ronde de demain sur cette question, donc ça pourra vous satisfaire. Une dernière question, c'est celle de Anne Gras, où est-elle ? Oui, posez-la vous-même, là, et c'est une question pour Monsieur Moritz.
Merci, bonjour. Anne Gras, je suis magistrat administratif et directrice d'une revue juridique en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, il y a encore moins d'habitants qu'en Macédoine, c'est 250 000 habitants. Il y a une répartition des compétences très particulière entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, trois niveaux de province. Donc nous sommes toujours à la recherche d'exemples de coopération entre autorités publiques, collectivités publiques. Et ma question s'adresse donc à Monsieur Moritz. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous développer un petit peu l'expérience allemande qui a abouti à la modification de l'article 91C de la Constitution? Pourquoi est-ce que cela m'intéresse particulièrement? En métropole, par exemple, la coopération entre divers niveaux de collectivités publiques se fait par des plans de stratégie numérique, par du financement, par la Caisse des dépôts, par l'expérience de services publics, et puis qui peut se décliner localement. Là, ce qui m'interpelle, c'est que ce soit dans la Constitution que la répartition des compétences entre les Landes et le Bund été effectué, qu'est-ce qui se passait avant, quel a été le processus, et si nous n'avons pas le temps, où est-ce que l'on peut trouver plus d'éléments sur cette expérience? Je vous remercie.
Alors je vais essayer de vous répondre au mieux. Alors je n'ai pas véritablement l'expérience historique, si vous voulez, de la manière dont la révision constitutionnelle, s'est imposée en Allemagne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant cette révision constitutionnelle, il y avait évidemment un blocage, dans le sens où il y a un droit de chaque Lande à trouver ses propres solutions, sa propre administration, sa propre gestion. Son autodétermination est extrêmement poussée. Et donc, effectivement, on ne peut pas mettre de solution en place, si vous voulez, autrement qu'en créant un cadre au niveau fédéral qui gère de manière assez précise la manière dont les compétences vont être réparties. C'est la raison pour laquelle on a été obligé d'aboutir à une révision constitutionnelle pour fixer avec précision ce cadre. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle la question des compétences communales, qui n'est pas véritablement tranchée en ce qui concerne l'e-administration dans la Constitution, méritera peut-être là encore une réforme au niveau de chaque Lande, évidemment.
Jean-Jacques Coudela, je suis expert international, je travaille justement avec, aussi avec nos camarades allemands là-dessus. Dans le système allemand, vous savez qu'au départ, il y a le Gemeinde. Le Gemeinde, c'est la base de tout, et tout est bâti, non pas bottom-up, mais exactement l'inverse. Et les Allemands étaient complètement bloqués dans la construction de leur gouvernement électronique parce que toute initiative partant de la base, ils se retrouvaient avec une multitude de choses qui étaient plein de choses utiles, mais qui n'étaient pas coordinables. Et finalement, ils ont cherché 1 million de façons de le faire, qui ne soient pas rechtswidrig, qui n'aillent pas contre la loi et contre la Constitution. Et ils ont trouvé que des solutions techniques d'abord, avec des standards. Je peux retrouver ça, mais parmi mes collègues, ils ont une institution de standardisation comme chez nous qui a mis en place des standards techniques pour essayer de passer. Ça n'a pas fonctionné. Et finalement, ils ont décidé par la loi de dire ça sera comme ça. Et puis voilà. C'est un point de vue purement pratique. Ça va contre les principes traditionnels, mais on a besoin de s'en sortir. Et ils le font actuellement également dans d'autres domaines en redonnant des compétences au niveau fédéral parce que ça ne fonctionne pas en partant du système du Gemeinde. Pour le reste, ça fonctionne.
Et donc, si vous cherchez plus d'informations sur ce point, que je développerai d'ailleurs dans la contribution écrite de ce colloque, je me ferai un plaisir de vous en envoyer quelques références doctrinales. Je prendrai votre adresse mail tout à l'heure.
Est-ce que je peux me permettre une question, par exemple, Stoyova ?
Oui, allez-y, mais rapide.
I will ask it in English, just in order to make it short. You mentioned that your country is a multi-ethnic country, so the question of language in building the e-systematizations and building administration is essential. What is the way you treat the question in Macedonia at the moment, actually? Language. You've got in Macedonia Albanian, Macedonian, Serbian, Bulgarian, and so on.
Now the Secretary of State is answering, Mr. Djiha.
I know that it's...
it's okay. I'm Albanian, so it's not a problem. We have a separate law in our country for using of language which are spoken by the citizens that are minorities. And it's about... not less than 20% of the all population of Macedonia. So the main things is regulated in this law, which are function and is in all municipalities, for example, where this kind of population is more than 20%, the official language except Macedonian is even language for the minorities.
Very simply, do you multiply your websites, or you decided about one language with some translations about specific points, like you are obliged to do for laws in general?
Sorry, can you repeat one?
The point is, if you are obliged to multiply your websites in different languages, or did you apply only one, Makedonski, first, with some adaptation when necessary on specific topics?
On municipalities, you have... multiply. I mean, even in some ministries, you have in English, Macedonian, and Albanian as well.
Good. What are the cost of this? What is the cost of this?
I mean, in which field? Because the money
in building e-government, because it costs a lot. For instance, if you take the Belgian example, this is something which is problematic. And you are smaller.
Yeah, you can say for call. I mean, if you are asking just all this kind of information regarding to the e-government, actually is not all translated in the language on Albanian or different, but the main things are translated. Yeah.
Just a point, what we see around the world is that the e-government imposes one a language. So in countries where you have different languages, the e-government will impose the language of the majority, as, for instance, the television or radio did in the 30s and 40s and 50s in our country, in Europe.
Thank you.
Oui, donc nous allons clore cet atelier. Je voulais faire remarquer que finalement la mise en place de cet e-gouvernement, e-information publique, etc. se fait librement dans la diversité. Il n'y a pas de cadre général, et la recherche d'un cadre général est toujours difficile parce que ça brimerait l'initiative qui ensuite suscite des imitations et des améliorations. Mais il faut se poser aussi le problème de la convergence. Il y a un retour, bien évidemment, de convergence de tous ces modèles. Alors par quel biais se fait ? Alors c'est peut-être le point qui n'a peut-être pas été souligné dans les différentes interventions. Comment se fait cette convergence ? Est-ce que se fait principalement par les décisions juridiques qui sont prises ? Est-ce que ça se fait par l'Europe d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que ça se fait aussi par les solutions techniques qui sont apportées, soit sur les logiciels, soit sur les hébergements, enfin les capacités d'hébergement considérables, qui obligent en quelque sorte à revoir les architectures et à trouver des convergences entre les acteurs. Donc ce problème de la coopération qu'a souvent été souligné, il est bien entre à la fois la limitation et la diversité des initiatives qui sont prises et la convergence, les convergences qui sont trouvées. Voilà, donc oui, je crois qu'on est obligé de terminer parce qu'il y a un autre atelier derrière. Je sais que c'est passionnant. Oui, bon.
Bonjour messieurs, je travaille pour le gouvernement valaisan et entre autres le gouvernement suisse. Il y a une chose qui m'intéresse et puis qui me surprend depuis à peu près 3 heures. On parle de convergence, on parle d'amélioration, on parle de droit politique, on parle de policies, on parle d'un certain nombre de choses. À quel moment vous allez mettre le citoyen peut-être là au milieu ? Parce que sans client, le produit ne sert à rien. Juste, c'est la question qu'on se pose nous à un moment donné. Et après 3 heures, je pensais que ça serait bien qu'à un moment donné, on mette juste le citoyen au milieu du débat.
Juste une petite réponse. Dans mon intervention, j'en ai parlé et même j'ai terminé dessus en disant que la décentralisation numérique permettra de rapprocher l'administration près du citoyen. Donc j'ai justement terminé dessus en disant qu'il fallait que le...
Si je peux me permettre, c'était un peu le sens de mon intervention tout à l'heure, de dire par exemple en Allemagne, cette carte d'identité qui ne sert pas justement qu'aux relations entre l'administration et les administrés, mais qui peut servir à beaucoup d'autres choses aussi, et par exemple à l'e-commerce, avec un outil développé par l'administration, mais c'est précisément mettre l'administré au cœur du système, et surtout, et c'est encore plus important je pense, le sortir de son petit carcan d'administré dans ses relations avec l'administration, pour en faire un consommateur de services, qui peuvent être des services publics, évidemment, mais aussi d'autres services. Je pense que ça contribue quand même à répondre un tout petit peu à cette interrogation. On est absolument d'accord. Bien sûr.
Bon, alors là, oui, non, il faut qu'on arrête là une pause café de 10 minutes et on reprend un nouvel atelier. Donc vous allez dans le fond.